Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au programme du pédalo ce soir, du 4 mai au 13 juin, le bateau Marion Dufresne était en mission au large du Mozambique et de l'Afrique du Sud. Ce projet nommé Charme a réuni entre 60 et 70 scientifiques, dont 20 de l'Université d'Angers. Elle visait à reconstituer les variations climatiques passées dans l'hémisphère sud pour mieux comprendre le fonctionnement naturel du système climatique. Pour en parler, on reçoit Myriam Mojtajid, paléoclimatologue et chef de mission sur le projet Charme. Et en deuxième partie d'émission, on accueille Anouk pour une chronique sur les stéréotypes de genre autour du barbecue pendant l'été. Voilà, vous savez tout du pédalo du mardi 7 juillet, alors ajustez vos gilets de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
41, c'est le nombre de jours passés sur le Marion Dufresne durant l'expédition Charme. Cette mission a longé le Mozambique et l'Afrique du Sud afin de récolter des carottes sédimentaires pour découvrir le climat passé, comprendre le présent et mieux appréhender le futur. Cette expédition visait à mieux connaître les variations climatiques dans l'hémisphère sud, d'autant plus utile avec le contexte climatique que nous connaissons actuellement. Pour en parler, on reçoit Myriam Mojtajid, paléoclimatologue et chef de mission sur le projet Charme. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors cette mission, elle consistait en apprendre plus sur le climat du passé, notamment dans l'hémisphère sud, afin de mieux anticiper les projections climatiques futures. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les objectifs de cette expédition ?
Oui, alors les objectifs de cette expédition, elles sont, comme tu l'as dit, ils sont assez clairs, c'est-à-dire qu'on essaie en fait de récupérer le plus de données possible sur les variations climatiques passées, qui constituent finalement la variabilité naturelle du climat, dans des endroits où il y en a très peu. Et donc il se trouve qu'en comparaison avec l'hémisphère nord, l'hémisphère sud est une partie du globe qui est très peu étudiée par rapport à cette variabilité climatique rapide des derniers millénaires.
Alors vous étiez 20 scientifiques de l'équipe d'Angers, et entre 60 et 70 durant tout le projet. On peut dire que Angers était vraiment centrale de cette mission, c'est assez impressionnant quand même.
Oui, alors l'Université d'Angers effectivement était porteuse du projet, donc c'est à travers, donc on a répondu, moi, personnellement j'ai répondu à un appel d'offres, et donc qui est justement lié à la flotte océanographique française, qui est un appel d'offres qui sort tous les ans pour avoir des bateaux hauturiers, c'est-à-dire en pleine mer. Bateau scientifique, bien sûr. Et donc, on a été justement lauréat pour la mission Charme. Donc, voilà.
Vous avez fait les côtes du Mozambique et de l'Afrique du Sud. Mm-hmm. Une chance d'avoir pu enchaîner deux missions. Et vous avez pour projet d'en faire une troisième sur les côtes brésiliennes. Pourquoi avoir choisi ces endroits précisément ?
Alors, en effet, c'est une très bonne question. Pourquoi choisir ces endroits précisément ? Donc, d'abord, on est parti du constat que dans l'hémisphère sud, on manquait un peu de données en comparaison avec l'hémisphère nord. Et donc, le but de la mission, c'était aussi de récupérer la variabilité naturelle climatique qui a très haute résolution temporelle. C'est-à-dire qu'on visait finalement ce qu'on appelle une résolution décennale à l'échelle des 10 ans sur les derniers 10 000 ans. Donc, ça veut dire que vous pouvez imaginer, si on veut récupérer ces archives-là, il faut aller dans des zones où on va avoir beaucoup de dépôts, parce que ces archives, ce sont des sédiments. Donc, tu as parlé tout à l'heure des carottes sédimentaires. Donc, ce sont des sédiments, des particules qui se déposent au fur et à mesure du temps. Et donc plus on va profond dans ces sédiments-là, plus on remonte dans le temps, et plus on va en déposer, et plus on va atteindre la résolution temporelle que l'on veut. Et donc pour ce type d'enregistrement, il ne faut pas aller au milieu de l'océan, parce que si on va au milieu de l'océan, ben, les sédiments ils sont peu. Donc on peut revenir très loin dans le temps, mais ne pas avoir la résolution escomptée. Par contre, si on se rapproche un petit peu des fleuves majeurs, on va avoir des sédiments qui viennent du continent, qui se déposent en grande quantité, ce qui permet d'atteindre nos objectifs. Et donc le Mozambique, l'Afrique du Sud, le Brésil, dans l'hémisphère sud, ils sont sous l'influence de trois grands fleuves, donc le Zambèze pour le Mozambique, le fleuve Orange pour l'Afrique du Sud, du côté Atlantique, et le fleuve Rio de la Plata, du côté Brésil-Uruguay. Voilà.
Alors sur place, vous avez récupéré des carottes sédimentaires afin de remonter des milliers d'années en arrière, comme tu viens de le dire. Vous les avez déjà un peu étudiées sur le bateau, mais vous les recevez vraiment en octobre pour pouvoir les étudier dans les laboratoires. Il y en a pour un petit moment de travail quand même.
Exactement. Donc effectivement, sur le bateau, on a différents instruments. En fait, déjà, on récupère les carottes. Donc ce sont des instruments ou un équipement qui est particulier, qui consiste à envoyer des engins en fait, à partir du bord pour aller récupérer des longs tubes de sédiments. Donc une fois qu'on les a amenés au bord, là on a pu récupérer des carottes aussi longues que 35 mètres, 36 mètres. Donc c'est énorme. Il faut faire quand même une analyse qui va être non destructive, c'est-à-dire qu'on ne va pas échantillonner, qu'on ne va pas détruire le sédiment, mais on va plutôt avoir une vision globale. Donc la première chose, c'est qu'on découpe en petits tronçons de 1 mètre. Ensuite, sur le bateau, on a aussi embarqué des espèces de scanners, où on passe en fait les carottes et qui nous disent, ils nous racontent pas mal de choses sur les propriétés physiques des carottes. Ensuite, sur le bateau, on ouvre les carottes en deux, c'est-à-dire sur la... Comme des carottes. Et en fait, on va du coup conserver une partie archive et une partie travail. Et sur la partie travail, on a décrit visuellement la carrosse, c'est-à-dire comment les sédiments changent de couleur, etc. Ça nous donne déjà une indication. On a aussi fait des mesures de couleur, etc., qui vont nous permettre d'avoir une idée, a priori, de ce que l'on va trouver par la suite. Et une fois qu'on va recevoir les carottes à manger... bientôt en octobre, eh bien, on aura d'autres analyses à faire.
C'est pas trop long d'attendre.
Si, c'est un peu long. Mais en même temps, j'avoue que j'ai quand même beaucoup de choses à faire au retour de la mission. Donc voilà, donc ça me donne un petit moment où je réfléchis un petit peu à la suite et donc où je peux justement attendre les carottes dans de bonnes conditions, on va dire.
Alors, on l'a évoqué, on peut remonter 10 000, 20 000 ans en arrière. Pourquoi c'est important de remonter aussi loin dans le temps ?
Alors, c'est important de remonter aussi loin dans le temps parce que actuellement, en fait, les modèles climatiques se basent sur les mesures instrumentales que l'on a dans le meilleur des cas depuis 100 ans, 200 ans. Mais dans certains pays, on les a que depuis 50 ans. Quand je dis mesure instrumentale, c'est-à-dire la mesure de température, la mesure de tout ce qu'on peut mesurer, en fait, qui va nous donner des indications sur le climat. Donc cette période, elle est courte dans le temps, parce qu'en fait, il faut placer un petit peu le changement actuel dans une base globale. Et du coup, le fait de revenir plus loin dans le temps, ça permet en fait, d'établir cette base naturelle. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça permet de voir comment réagit l'écosystème face à des perturbations environnementales et climatiques, et quelle est la résilience des écosystèmes, par exemple, un des objectifs par rapport à ça.
Alors, vous parlez de projet d'une vie. Quand on voit le travail que vous avez déjà fourni, toute votre équipe et toi, et le travail qui t'attend quand les carottes vont arriver au labo, c'est un projet conséquent, on peut le dire.
Oui, c'est un très très gros projet, effectivement. On peut dire que c'est un projet d'une vie, parce qu'il a commencé en fait, à mûrir dans ma tête depuis plus de 10 ans. Et donc, tout ce que l'on a récolté là, avec les collègues et le nombre d'expertises qu'on a pu mettre autour de ce projet, ça va nous donner du travail pendant au moins 10, 15 ans, 20 ans peut-être, pour l'analyse des données. Ouais.
Qu'est-ce que vous espérez trouver, comprendre et pouvoir montrer aux autres scientifiques ou peut-être même à la population générale dans vos recherches ?
Alors moi, ce que j'espère et ce que j'attends de comprendre, c'est vraiment le fonctionnement naturel du système climatique et la relation qu'il y a entre l'océan et l'atmosphère dans ces environnements particuliers. Ce qui fait que ça permet déjà de comprendre un petit peu ces zones-là qui sont mal étudiées. L'océan, l'atmosphère et donc le climat, ils n'ont pas de frontières en fait, tout est lié. Et donc tout ce qui se passe quelque part, dans un bassin océanique ou dans une région du monde, ça impacte le reste du monde. Actuellement, la vague de chaleur que l'on subit vient de l'Afrique du Nord, et donc ça arrive chez nous. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de frontières. Donc plus on comprend en fait comment fonctionne ce système, plus on va pouvoir s'y adapter et appréhender un petit peu les changements futurs.
On a parlé de carottes sédimentaires, mais vous n'avez pas fait que ça. Vous avez aussi fait des mesures dans des colonnes d'eau. Vous avez lâché ce qu'on appelle des bouteilles pour faire des prélèvements dans des zones trop compliquées pour les carottes. Avec tout ce que vous avez pu trouver, comment on fait, avec tous les échantillons que vous avez pu faire, comment on fait pour ne pas perturber l'écosystème qui est sur place.
Oui, c'est une très bonne question. Alors, c'est vraiment des prélèvements très, très ponctuels. C'est, si on réfléchit par rapport à la taille de l'océan qu'on a là-bas, c'est vraiment rien du tout. Les bouteilles, on récupère quelques litres, en fait, par station. Et on en a fait 26 stations au Mozambique, environ 26 stations au Mozambique, et environ la même chose du côté Afrique du Sud. Donc, c'est vraiment très, très, très ponctuel. Les carottes sédimentaires, ça fait 10 cm de diamètre. Donc, sur un bassin océanique, c'est rien du tout. Donc, effectivement. Alors, le seul truc qui peut perturber, justement, c'est vraiment l'acoustique, parce qu'on utilise aussi un système acoustique pour pouvoir faire l'échographie sismique, en fait, du fond. Avant de pouvoir aller faire des carottages, il faut qu'on sache où est-ce qu'on va carotter. Et ça peut avoir des perturbations, par exemple, sur les mammifères, mammifères marins. Mais il y a des études au préalable par rapport à l'engin que l'on utilise, à l'équipement qu'on a, si ça a plus ou moins d'impact. Et on a une étude d'impact avant. Et ensuite, quand la commission elle voit que l'impact est minime, on nous autorise à y aller. Mais il y a quand même une perturbation dans ce sens-là.
Vous étiez sur un bateau 24 heures sur 24 avec souvent très peu de sommeil. On peut dire que c'est l'aventure, la recherche scientifique qui vous tenait éveillé et qui vous poussait à toujours plus travailler.
C'était incroyable. En fait, moi, je dormais que peu, mais mes collègues également. Et en fait, ça se voyait qu'on était tous hyper motivés, hyper excités par ce qu'on est en train de faire, par découvrir des nouvelles choses, par être concentrés sur un seul projet, sur une seule tâche pendant un mois et demi. Et en fait, je pense que c'est l'adrénaline qui a marché. Effectivement, moi qui suis grande dormeuse normalement, j'ai très très peu dormi, ouais, très très peu dormi.
On continue de parler de l'expédition Charme, mais avant on fait une pause musicale. On écoute Dirty Science de 90 Proof, un son hip-hop des années 90 qui vous fera bouger la tête. A tout de suite dans le pédalo. Words push, crowd is shook. To be released from the field to capacity, mind of a lyrical beast. Niggas be tripping, so you know they call for anything. Me and LOS is best known for undercovering, so throw your hands up. Niggas lay your fucking piece down. Don't ever think of disrespect the heads here in Chi-Town. Proof has got the shit locked down, just like a syndicate. Got a better chance winning a lotto with just one quick pick.
The style is preposterous, mine is anonymous. I spit from my esophagus, it got me living prosperous. Hip hop-ologist in this ghetto metropolis. Amazing accomplishments, blazing with astonishments. 100 yards from inches, stars off the benches. Rhyme benches, got my whole life that's off the hinges. Rap attack from the back, leave y'all niggas senseless. Funk soup, we ballin' hot pots down in the kitchen.
And yo, we punishing the adversary, stepping in the cypher. Like zombies, niggas be following me like I was Pied Piper. I'm getting hyper and bringing it straight up to your chest. Olympic rhyme, I'm throwing javelin, so you better grab a vest. Don't ever stress, some niggas just ain't ready yet. Claiming your ass is a teacher, but you never took the test. Your greatest F, stepping to the fucking best. Pass the mic to LOS. Let them finish up the rest.
From longitude to attitude, attitude without gratitude. I'm coming after you with gas cocked back, yo, to splatter you. How you screaming like a battle wife? Shatter your life, put up your ass, you acting right. I fly your head just like a satellite. Self-reliant, still defiant. You niggas dying, lying. Call me a David, cause I'll be quick to slay a giant. Demolish men, any monuments without no arguments. Niggas up and up in life, it's time we start garnishing.
It's the way we hold a mic in our hand, the way we began, the way we hold it down like the strength of a million men. The way we expand and understand, everybody needs to fight. The way we call it dirty science.
Yo, I write rhymes trapped up inside with lazy eyes. Redefine gravity through heavier times. Many of mine only failed to be the best that they could. Let it be known I only rhyme for the hood. It's all good, nothing artificial. You know the street life is biblical. High slug nail in my wrist is crucifixion. Many men stood up and caught a missile, leaving a breathless physical. The end of my term, my mission.
Taking it back to the essence of life with no question. Despite the mic session, I'm a legend of expression. The one that's destined to reach millions in my quest. Teaching a lesson that evolved my cipher as a blessing. The type to be stressing, hip hop is taken for granted, but not to panic. A new birth has landed, a new age in space, a piece on earth is demanded. A generation, a name, reclaiming a planet. We have came and we planted, vigorous seeds to attack the gibberish. On the map, a contract with fingers, just put the righteous on track. Or might you change all the images that portray an MC for today.
I was born for this, raised to a man, all for this. Practice half my life just to deliver this peaceful war's now a business. Whose applicants lines long, brother be strong. strong when the sun don't shine. You know it's time, yo, it's thin lines, bottom of the lines last time. We going all out for the moonshine, subject of rhyme, Panama through masters. Right now we only writing classics, my heart bleeds for this. First verse clumped in the bandage, managed to obey God's plan and use a savage. Never let the sneaky snake squeeze between the magic, that's static, get your moonshine panic. Planning to lift my people off the planet, leave you stranded.
When will you peeps awaken, at the faking, cause that be making money taking, a culture the great lack of creating. The tact be blatant, that's how many MCs forsaken the truth. All performing, so they sold for a payment. Here's your arraignment, for this in the craft, for self-containment. I ban you in the name of reframing for entertainment. Your mission's plain and simple, I'm aiming for your mental. Grabbing your temple, stabbing your brain with my two pencil. That's what I'm into, nothing but facts, stubbing over the tracks. When I deliver, make a conscious mind shiver. The automatic ripper on mics, my flow slither through hype, man. Turning dope as MC into an average fan. It's the way we hold a mic in our hand, the way we began, the way we hold it down like the strength of a million men, the way we expand and understand everybody needs defiance, the way we call it dirty science.
C'était Dirty Science de 90 Proof. Vous êtes bien sur Radio Campus à l'écoute du Pédalo et on est toujours en compagnie de Meriem Mojtahid, paléoclimatologue et chef de mission sur l'expédition Charm. Alors, je viens de le dire, t'étais chef de mission. En quoi ça consistait?
Alors, chef de mission, ça consiste en fait, c'est la personne qui dépose déjà le projet, qui écrit le projet, qui réfléchit au projet. Et c'est surtout la personne qui va coordonner en fait toute la science autour de ce projet et qui va organiser finalement la mission. C'est-à-dire que j'ai eu ce privilège de faire ça, même si c'était pas une tâche facile, mais mes collègues ont rendu cette tâche très facile au final. Ça consiste en fait à organiser tout ça, à inviter les scientifiques, à organiser les expertises, à voir ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, à décider des stations que l'on va échantillonner, que l'on va étudier, à faire tout un travail de recherche auparavant pour pouvoir guider les gens vers les endroits qui sont intéressants. Voilà, ça consiste en tout ça, puis ça consiste aussi à organiser l'avant et l'après aussi. Voilà.
Il y avait énormément de scientifiques de plein de nationalités différentes. Comment on arrive à organiser et à coordonner le travail avec autant de personnes différentes?
Eh bien, j'ai la chance d'avoir un réseau de collègues en fait, qui est assez large. Parce que j'ai l'habitude de travailler avec plein de collègues de différents laboratoires. D'ailleurs, notre laboratoire à Angers, laboratoire de planétologie et de géosciences, en fait, on est assez connu pour notre rayonnement international, parce qu'on a pas mal de contacts à l'international. Donc c'est un réseau que j'avais déjà, c'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé, j'ai déjà publié dans la majorité. Et puis pour certains, c'était des nouveautés ou des collaborations que je suis allée chercher justement pour monter ce projet.
Alors on évoquait tout à l'heure, cette mission, elle est née dans ton esprit en 2014. Mmh. Comment on explique que ça a mis autant de temps à se mettre en place?
Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est un mélange entre un processus, on va dire, naturel de recherche, qui est un processus à long terme. En fait, il faut que l'idée germe dans la tête. Ensuite, il faut se donner les moyens scientifiques et financiers pour le faire. Et puis, il faut faire ses preuves au fur et à mesure. Donc, en 2014, je commençais en tant que jeune maître de conférence. Et du coup, il faut faire sa place. Il faut prouver qu'on va y arriver. Et puis, en même temps, au vu des financements de la recherche fondamentale qui ne font que baisser de plus en plus, c'était assez dur, justement, de construire, parce que pour construire un projet aussi énorme, il faut, comme une maison, comme un immeuble, il faut d'abord construire des bases solides. Et pour construire des bases solides, il faut avoir les projets, les publications, les attaches qu'il faut pour faire ça. Et donc ça met du temps à mettre en place. Et petit à petit, ces briques-là, on les construit ensemble avec nos collègues jusqu'à arriver à quelque chose de consistant qui fait qu'on nous fait confiance et puis on lui dit allez-y maintenant, c'est bon, on vous fait confiance.
On connaît toutes et tous l'urgence climatique dans laquelle on est aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ce contexte il peut aider les missions comme celle que tu as faite à se développer et à exister?
Bah, dans l'idéal, ça serait bien. Ça aurait été, c'est justement, ça nous aurait aidé à accélérer un petit peu les choses, d'acquérir un peu plus de données et d'avoir plus de financement pour cette recherche fondamentale. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'instant. J'espère que dans le futur, avec les consciences qui se réveillent, j'espère aussi qu'on a pu, on a fait tout un travail aussi auprès des écoles, des travail pédagogique auprès de nos étudiants également, parce que nous sommes enseignants aussi, en plus d'être chercheurs. On espère quand même qu'on va avoir susciter des vocations chez le jeune public qui justement pour comprendre l'importance justement de ce que l'on fait pour le futur et pour notre planète quoi.
Tu viens d'évoquer les écoles. Oui. C'est vrai qu'avant de partir, vous en aviez parlé dans des écoles.
Oui.
Pendant aussi, vous aviez envoyé des vidéos, il y avait répondu à des questions, etc. Oui. Est-ce que tu as pu déjà leur reparler ou c'est prévu bientôt de refaire un petit tour dans ces écoles-là ?
Alors, effectivement, on a fait avant d'être sur la mission, on a travaillé avec la société Culture Biome depuis presque 2 ou 3 ans sur le projet. Et le but, c'était justement de faire vivre à certaines écoles, y compris les écoles au Mozambique, en fait, cette expérience en commençant un an auparavant. C'est-à-dire que l'expérience a commencé en septembre, on a fait la mission en mai, et du coup, ça se passait sur une année scolaire. Et le but, c'était justement, au début, d'aller à la rencontre des élèves, à la rencontre des profs, leur expliquer un petit peu le programme, qu'ils travaillent aussi avec la matière, ils ont monté des petits projets. Mais tout ça, ça a été coordonné par Culture Biome. Les membres de Culture Biome sont venus aussi sur le bateau. Ils ont coordonné aussi l'aspect pédagogique avec ces écoles-là et avec les écoles du Mozambique. On a eu des visites d'écoles également. On a traduit les ressources en portugais, parce qu'ils parlent portugais. Donc il y a eu tout un travail qui était super là-dessus, grâce à eux. Et du coup, normalement, ils ont fait la restitution au retour de la mission. Et donc là, on va faire une réunion bientôt pour voir un petit peu ce qui en est sorti. Mais pendant la mission, on recevait des mails d'élèves auxquels on devait répondre. Voilà, il y avait plein de questions différentes. C'était très, très bien. Ouais.
Le projet, il prend forme en 2020, quand tu le déposes pour la première fois une appel à offres.
Ouais.
6 ans plus tard, tu as pu le réaliser. Est-ce que c'était compliqué de se faire entendre et de montrer qu'on a besoin de projets comme ça pour comprendre les variations climatiques ?
Alors, c'était pas compliqué de se faire entendre. Il a toujours été bien évalué, ce projet. Le problème, encore une fois, c'est le manque de financement. Il y a aussi plein d'autres projets qui sont au moins aussi intéressants, voire plus, et qui attendent. Il y a eu la crise, les différentes crises, la crise du Covid. Ça a aussi affecté la programmation de la flotte océanographique française. Il y a eu plein de choses. Il y a eu l'augmentation des tarifs du carburant. Il y a eu tout ça, en fait, qui a fait que ça a impacté avec à peu près le même budget qui est alloué à ces missions, donc il faut faire des choix, la commission doit faire des choix, et donc finalement ça n'a pas été trop mal par rapport à ce qui était attendu.
On a évoqué que sur le bateau il y avait beaucoup de scientifiques qui travaillaient, beaucoup de nouveaux échantillons tous les jours. Ça ressemble à quoi une journée type sur le Marion Dufresne?
Une journée type, alors pour moi ça commence à... Enfin ça finit pas et ça commence pas, bon, on va dire ça commence à 4h du mat avec un beau lever de soleil en général au Mozambique vers 4-5h. Et puis ensuite, moi je suis souvent beaucoup sur mon ordinateur quand même parce qu'il faut que je gère un petit peu l'organisation, je gère les stations, je gère toute l'organisation. Et après, en fait, ça n'arrête jamais, c'est 24 heures sur 24. En fait, c'est des équipes qui se relaient. On travaille en ce qu'on appelle des quarts, c'est-à-dire on fait 4 heures, 4 heures, 4 heures. Donc on a 3 équipes de 4 heures qui tournent 24 heures sur 24. Ce qui fait que c'est une machine, c'est un peu comme une ruche qui ne s'arrête jamais. Et donc ça commence par, on va aller à cette station, on donne les coordonnées, on y va, on se dirige vers la station, on commence par faire la prospection sismique dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite on décide, là on va faire un carottage, donc l'équipe carottage se met en route, on lance le grand carottier, ensuite on a un autre petit carottier, on lance l'autre petit carottier, ensuite on décide de faire le filet à plancton, les bouteilles d'eau, etc. Puis ça s'enchaîne, et ensuite une fois que c'est fini, les prélèvements, il y a des équipes qui se relaient pour faire le pré-échantillonnage ou le conditionnement de ces échantillons à bord. Et puis entre-temps, le bateau avance, on lui dit où aller, il va à cet endroit et rebelote. Et en fait, c'est un peu ça. Puis, bien sûr, on s'arrête aussi pour manger. On a du temps aussi un petit peu pour nous. Voilà, c'est une journée type.
Alors, pour pouvoir longer ses côtes et prélever des échantillons, vous devez parfois batailler, on peut dire, avec certains gouvernements, expliquer tout votre projet et vos démarches. Avant de te lancer, tu pensais que ça allait être aussi compliqué d'avoir les autorisations ?
Oui, parce qu'on m'avait prévenu. Et en fait, on m'a prévenu aussi qu'il y avait dernièrement le contexte diplomatique. Bah, comme vous pouvez le voir, on peut le sentir, dans le monde, tout se complique. Les relations diplomatiques se compliquent. Et donc finalement, effectivement, d'aller dans des eaux étrangères, ça nécessite toute une démarche de demande d'autorisation, ce qui est normal. Mais cette démarche est de plus en plus compliquée à obtenir par rapport à faire par rapport à ce qui se faisait il y a 10-20 ans. Et donc ça a nécessité un travail de diplomatie que j'ai essayé de mener avec mes collègues sur place. Et c'était éprouvant, oui, cette partie-là.
C'était quoi les plus grandes difficultés, qu'elles soient scientifiques ou humaines, à bord du navire ?
Franchement, les difficultés, j'en ai pas vraiment en tête. Les grandes difficultés, la grande difficulté, c'était ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire de convaincre tout ce monde-là de venir et de les faire venir sur le bateau. Ça, c'était le plus compliqué, le plus difficile, d'obtenir des autorisations. Une fois qu'on était sur le bateau, on était dans notre élément, en fait, et ça roulait. Voilà, c'était très bien.
La dernière fois qu'on t'a posé cette question, t'as pas su répondre. Peut-être qu'aujourd'hui, t'as un peu plus réfléchi. C'est quoi ton meilleur souvenir de l'expédition ?
Ah oui, mais j'en ai plein, en fait. Mon meilleur souvenir de l'expédition, c'est vraiment la fête de clôture ça mettait un point final à la mission. C'était très émouvant et je me rappelle avoir reçu un très beau cadeau qui où les gens ont vraiment travaillé pour le faire, pour le façonner. C'était fait à la main et ça m'a beaucoup émue. Ça, c'est un très très beau souvenir.
Merci Myriam Mochtaïd, paléoclimatologue et chef de mission du projet Charme. Je rappelle que ce projet vise à étudier le climat passé afin de mieux comprendre le présent et surtout appréhender le futur. Bonne soirée.
Merci, merci beaucoup.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Le pédalo, c'est bientôt terminé, mais avant, on accueille Anouk du collectif antispéciste Bête et Méchante, pour sa première chronique. Salut Anouk.
Salut.
Les vacances d'été commencent à peine et nous sommes déjà à la troisième canicule de l'année, avec son lot de barbecue et ses tonnes de viande grillée, une partie encore très associée aux hommes et à leur masculinité.
Eh oui, c'est bel et bien l'été. On sent partout les odeurs de la chair cuite. Autour du feu, des hommes qui parlent fort, avec une bière à la main. Vous pensez que j'exagère ? Eh bien malheureusement non. C'est sûr qu'on aime ça, le plaisir de se retrouver pour manger, en famille, entre amis. Et c'est agréable d'être dehors à l'arrivée des beaux jours et de faire des barbecues. Moi qui suis végane, j'adore les repas partagés avec mes proches. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter deux secondes pour se questionner sur ce qu'on souhaite manger lors de ces repas ? Il ne faut pas oublier que ce que l'on pose sur ces grilles au-dessus du charbon brûlant, ce sont des animaux morts qui ont été élevés et tués pour ce moment de convivialité. Ils avaient aussi envie de vivre. Et je précise que la plupart de ces animaux sont des cochons qui n'auront probablement jamais vu la lumière du jour ou le soleil que l'on apprécie tant en été. Si on évoquait la grande place des hommes autour du barbecue, c'est parce qu'il s'agit bien de là d'une activité genrée. La mise en scène sociale de l'allumage du feu est plus valorisée que le reste du soin domestique qui, lui, est invisibilisé. Une fois l'été terminé, on observe que pour la cuisine quotidienne ou les autres tâches domestiques, ce ne sont pas les mecs qui font la majorité du travail.
Si c'est davantage les hommes qui s'occupent du barbecue, est-ce que c'est aussi eux qui consomment le plus de viande ?
Eh bien oui, et c'est d'autant plus flagrant avec la conso de viande rouge. Les hommes en consomment deux fois plus que les femmes. De plus, cette éducation à en manger beaucoup commence dès l'adolescence, chez les jeunes garçons. Pourtant, la consommation de viande n'est indispensable à personne pour être en bonne santé, quel que soit l'âge et le genre. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais bien l'OMS. Cet écart d'âge ne date pas d'hier. Une étude publiée cette année en 2026 révèle, grâce à l'analyse de plus de 12 000 squelettes européens, que les inégalités alimentaires entre hommes et femmes sont aussi vieilles que nos sociétés. Depuis le néolithique, les femmes ont systématiquement eu moins accès à la viande que les hommes. Alors autant à cette époque, avoir un régime alimentaire vegan n'était pas envisageable pour une question de survie, mais aujourd'hui, si les mecs continuent à en manger plus de viande, ce n'est pas pour une question de santé et de survie, mais bien à cause du mythe moderne où la viande est le symbole de la force dans nos sociétés occidentales.
Et le capitalisme, qui pousse l'horreur de l'élevage au maximum, a bien compris les enjeux de consommation liés aux stéréotypes de genre.
On voit à la télé, sur les panneaux publicitaires, des pubs pour la viande qui s'adressent principalement aux hommes. En mettant en scène des mecs virils, on se rappelle tout du slogan « Mmm, charal », où des morceaux de chair juteuse y apparaissent. Dans une société patriarcale, ces corps d'animaux sont en fait considérés comme le corps des femmes, à la disposition des intérêts des hommes, qui se veulent en haut de la chaîne alimentaire, tels des prédateurs. Mais les mecs, à quel moment vous croyez encore dans la chaîne alimentaire ? Surtout quand presque tout ce que vous bouffez provient d'élevages intensifs et d'abattoirs atroces et se retrouve emballé dans une boîte en plastique de votre supermarché.
Mais aujourd'hui, on peut dire que la consommation de viande a diminué chez les jeunes hommes, non ?
Je sais, je raconte tout ça en sachant bien que les choses changent, que les stéréotypes genrés ont tendance à évoluer dans le bon sens. Et d'ailleurs, ça ne plaît pas aux réacs ni aux masculinistes. Pour eux, la bonne bouffe française ne peut pas se faire sans viande, sans fromage et sans un bon vin. À l'image des canons français, ces banquets franchouillards organisés par la clique de Pierre-Édouard Stérin, le milliardaire qui a le projet d'amener l'extrême droite au pouvoir en France. Bref, dans les groupes de potes mecs, il arrive souvent que ceux qui mangent moins de viande qu'avant sont moqués, attaqués sur leur virilité et même reçoivent des insultes homophobes. Bon, on n'a pas beaucoup parlé de bouffe, mais en tout cas, arrêter de célébrer des moments de retrouvailles autour de cadavres n'entraîne pas une fin de ces moments festifs. Aujourd'hui, il existe de très nombreuses alternatives pour des barbecues en chair animale. Qu'elles soient faites maison, telles que des brochettes de seitan, de protéines de soja et des légumes marinés, ou industrielles avec des saucisses végé que l'on retrouve dans tous les supermarchés. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été sans cruauté et avec un max de convivialité.
Merci à nous, on te retrouve toi et d'autres membres du collectif Bêtes et Méchantes pour des chroniques mensuelles à partir de la rentrée prochaine. Bonne soirée! Le Pédalo termine sa traversée sur les ondes de campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Arthur à la technique. La programmation continue sur le Centre FM, alors restez bien avec nous. Et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.